Radio Okapi. Écho des développements.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho du Développement, votre magazine des promotions des questions de l'environnement et développement durable des Radio Okapi. Tati Mapuku est à la présentation de ce numéro avec la collaboration de Dorcas Kankou de la Radio Okapi Kisangani. Jean-Marc Matouaki coordonne et supervise cette émission. Mimi Kindo est à la prise des sons. Comment promouvoir les transports et l'écotourisme sur le fleuve Congo et ses affluents? C'est le sujet que nous abordons dans Écho du Développement de cette semaine. Nous vous souhaitons très bonne condition d'écoute de ce magazine.
Écho du Développement, une émission qui touche à votre environnement immédiat. L'agriculture, l'économie verte, les questions liées au changement climatique et tout ce qui touche au développement durable. Les causes, les conséquences, les pistes de solutions aux problèmes qui affectent la planète, c'est dans Écho du Développement. Suivez cette émission tous les jeudis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le samedi à 13h05.
Merci de votre fidélité à la Radio Okapi, la radio de la paix. La navigation sur le fleuve Congo est un voyage périlleux mais vital, surtout pour les voyageurs et les commerçants. Au quotidien, des baleinières et autres embarcations de fortune transportent des passagers et les produits de première nécessité en provenance de Kinshasa. À leur retour, ces unités fluviales ramènent dans la capitale congolaise les denrées agropastorales de toute nature. Cependant, le tonnage n'est souvent pas respecté et le risque d'échavirement de ces bateaux est très élevé à chaque voyage. Comment améliorer les conditions de transport sur le fleuve Congo et ses affluents? Quel peut être l'apport du transport fluvial dans l'écotourisme et dans l'économie de la RDC? Les éléments de réponse, vous les aurez dans ce nouveau numéro des Codes du Développement qui débute avec les réactions de quelques voyageurs interviewés par Dorcas Kankou dans la ville de Kisangani. Selon ces quelques personnes à qui nous avons donné la parole, les conditions de transport sur le fleuve Congo ne sont pas bonnes depuis que l'État congolais s'est désengagé dans les secteurs. Les opérateurs économiques qui ont les unités de transport fluvial ne respectent pas les consignes de sécurité requises et cela occasionne souvent des chavirements pendant les voyages. Nous allons écouter leurs réactions.
Bon, actuellement, les conditions ne sont pas très bonnes en général parce que il n'y a presque plus de bateaux à passagers sur le fleuve. Sauf le Kokolo qui navigue maintenant et l'autre qui est en instance de voyager les Gung.
C'est pas très sécurisé pour les passagers.
Non, c'est pas très sécurisé. En dehors de ces deux unités donc, que je viens de citer là, que les bannières qui causent tous les malheurs que vous connaissez. Mais, bon, d'abord, il faut avoir des bateaux, bon, des unités appropriées. Je parle des barges à passagers, des bateaux à passagers. Mais aussi, il faudra augmenter les niveaux de vie de la population pour qu'elle puisse se payer le voyage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ce voyage. Voilà les deux choses qui doivent être faites concomitamment.
Est-ce que vous vous rappelez un peu de l'époque où l'ONATRA avait un programme régulier entre Kinshasa, Mbandaka, Kisangani et aujourd'hui?
Oui, je me rappelle de ces souvenirs-là. Il y a 30 ans au moins, ce trafic se faisait et les niveaux de vie étaient bons aussi. Les gens pouvaient se permettre de payer les billets et voyager. Pour le moment, c'est autour de $50, mis à part la nourriture dans le bateau. La troisième classe dans les $50. Le gouvernement doit augmenter le nombre de bateaux et des barges, mais aussi au même moment, augmenter les niveaux de vie des passagers qui puissent être capables de payer. Parce que les $50 là, c'est rien par rapport aux exploitants, mais c'est beaucoup pour un passager qui doit payer $50. Parce qu'en dehors de ça, il doit se nourrir jusqu'à ce qu'il arrive à la destination. Donc le minimum que la personne dépense, c'est $100 pour arriver à la destination.
À mon avis, la société SCPT doit faire en sorte que le bateau courrier Itebe Kokolo soit régulier et non une seule fois par an en provenance de Kinshasa pour Kisangani.
Bon, présentement, les gens qui prennent le bateau pour Kinshasa, en tout cas, il voyage dans de très mauvaises conditions. Il voyage dans des conditions inhumaines qui ne répondent pas à l'époque où nous vivons actuellement. Et il faut qu'on puisse relancer effectivement le trafic, comme ce fut dans les temps du bateau courrier, pour permettre la mobilité des gens. Bon, il n'y a pas match, hein, on ne peut pas comparer, parce qu'à l'époque, l'ONATRA était subventionné par l'État. C'est pourquoi il y avait régularité des bateaux courriers sur le fleuve, sur le Kassai et sur tous les affluents. Et il faut que l'État puisse subventionner l'ONATRA, parce que sous d'autres cieux, le trafic passager, l'État a une grande part de responsabilité sur ça.
Merci à ces quelques habitants de la ville de Kisangani qui ont réagi sur les conditions des voyages sur le fleuve Congo et ses affluents. Selon nos sources, le fleuve Congo est l'un des plus grands fleuves du monde avec une longueur totale de 4371 km. C'est le deuxième plus long d'Afrique après le fleuve Nil. Il arrose Kisangani, Mbandaka, Kinshasa et Matadi avant de finir sa course dans l'océan Atlantique. D'après Gabriel Mokango, directeur technique de la régie des voies fluviales RVF, le fleuve Congo a un réseau hydrographique très immense estimé à 25 000 km à l'état naturel, avec au moins 15 000 km constitués de biefs navigables. Nous allons suivre ces explications.
Oui, ce que vous devez retenir, que la RDC a un réseau hydrographique très immense et qui est estimé à quelque 25 000 km en état naturel, dont 15 000 km qui sont catégorisés et classifiés. Et c'est le 15 000 km dont s'occupe la RVF. Donc dans ces réseaux, vous avez la partie fluviale et la partie lacustre. Donc tout ce qui se trouve à l'est de notre pays.
Et dans ça, donc, il y a les biefs que l'on peut considérer navigables et les biefs qui ne sont pas navigables.
Oui, effectivement. Les études ont démontré que le fleuve Congo a été réparti en trois biefs. Nous avons le bief supérieur qui se trouve à l'est, nous avons le bief moyen, donc le fleuve Congo et tous les affluents qui sont au centre, notamment autour de la cuvette centrale, et nous avons le bief maritime, qui est aussi le bief inférieur, comme on l'appelle. Et le fleuve Congo n'est pas navigable de bout en bout. Il est à tête coupée. Et c'est ce qui a fait que l'explorateur, même le colonialiste à l'époque, parce que c'est par voie d'eau qu'il y avait une grande intégration territoriale, et ils ont relié les endroits non navigables par le chemin de fer. Donc quand vous prenez le fleuve de là-bas...
Pour combler la mobilité à travers les pays...
Oui, dans un système qu'on a appelé système de transport multimodal, qui combine le chemin de fer, les voies
fluviales, lacustres,
autour de voies fluviales. Parce que le port, c'était le point de chute qui devait relier. Mais le tout était centré exclusivement sur le voie fluviale. Donc tout ce qui était produit d'exportation passait par le voie fluviale.
Alors, quel état de lieu faites-vous, M. Gabriel Mokango? Je rappelle que vous êtes directeur technique de la RVF. Quel état de lieu dressez-vous au fait de ce secteur aujourd'hui? Parce que par le passé, il y avait des bateaux publics qui faisaient le navette Kisangani, Kinshasa. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est?
Oui, il faut dire que ce secteur n'a pas échappé, comme d'autres secteurs, à la dégradation que nous connaissons dans notre pays. Et la période que je peux appeler grâce du s'est estompé autour des années 80, surtout quand on a libéralisé ce secteur de transport fluvial.
Et l'âge d'or a des coups chutés.
Oui, de là, vraiment, c'est la dégradation. Et on voit même l'investissement qui est fait et ne répond plus. À l'époque, quand vous prenez la SNCC ou la STP ex-ONATRA, vous voyez la flotte qu'il avait, plus de 1000. Et quel type de bateau qu'il avait pour aller chercher le minerai.
Ah, il est beau. Des bateaux courriers.
Pour le transport de passagers, le bateau courrier. Aujourd'hui, là, on essaie un peu de remonter avec Itebe, Kokolo, Gungu, mais bon, ils font plus les transports mixtes, hein, cargo et passagers, mais c'est pas rentable. Et les opérateurs économiques privés n'essayent pas de faire ce type de transport parce qu'ils ne rentrent pas dans l'air. Frais.
Et puis, ce sont des gros investissements.
Oui, et puis ils n'ont pas accès facile à des lignes de crédit bancaire. Donc, ils se débrouillent tant soit peu. C'est comme ça que vous voyez sur des bateaux de fortune, sur des baleinières, embarquer plus de 500 personnes qui sont entassés et qui dans une promiscuité impossible. Tout ça parce que tout le monde veut s'embarquer, tout le monde veut aller dans le centre de consommation, vendre le produit et avoir un petit revenu pour pouvoir lutter contre la pauvreté.
Le plus important apport du fleuve Congo est économique, ajoute Gabriel Mokango. Nous rappelons qu'il est directeur technique de la RVF. Il offre la possibilité d'acheminer à bas prix les produits de première nécessité qui pourrissent à l'intérieur du pays et acheminent à vil prix des produits manufacturés à partir de Kinshasa au fin fond du Congo. En outre, l'entretien du réseau fluvial coûte moins cher comparativement à la maintenance d'une route.
Il est établi, d'abord du point de vue de l'entretien, le voie navigable coûte moins cher. Une route bitumée, les kilomètres c'est 1 500 $. On peut aller même à 2 000 $. Donc si vous prenez sur 100 km cet argent, si vous mettez ça sur les voies fluviales, on peut faire autant de rotations sur le fleuve. Et si je prends une barge de 200 tonnes, ça vous transporte 2000 sacs de maïs. Si vous prenez un camion, même s'il charge, vous avez
tout au plus 100-150 sacs.
Oui, oui. Donc vous voyez, le bateau.
Et là, c'est surchargé.
Le bateau, et quoi, les camions, et il faut voir aussi l'état de route. Mais si la voie d'eau est bien balisée, on sécurise le bateau. D'abord, le bateau ne va pas avec une seule barge, c'est tout un convoi de 3, 4, 5 barges. Mais s'il a 10 000 tonnes, et qu'il peut ramener, vous voyez combien de sacs il peut ramener. Donc, du coup, le grand centre sont alimentés. Et c'est ce qui fait que souvent le
président. Les grands centres sont alimentés, les paysans sont encouragés de produire parce que l'évacuation ne posera pas trop de soucis.
Pas trop de soucis, comme vous le dites si bien. Et puis, ces gens-là vendent, ils ont revenus. Ils peuvent scolariser leurs enfants, ils peuvent prendre soin de leur famille, ils peuvent acheter aussi des produits manufacturés. Parce que c'est, parfois, on ne se rend pas compte qu'ils ont aussi besoin de produits manufacturés. Et pour leur vécu quotidien. Donc il n'y a que par voie d'eau on peut réaliser ça. Et puis quand vous prenez la carte de la RDC, il n'y a que de l'eau partout. Et à l'équateur, vous allez prendre la route pour aller où? Il n'y a que par voie d'eau. C'est comme ça, vous voyez que le gens, même avec des radeaux de fortune, des pirogues, qu'ils mettent ensemble sous forme de catamarans ou de trimarans pour pouvoir descendre vers le grand centre vendre. Ils prennent le risque, bien sûr, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a pas à côté un palliatif ou un système de transport tel que jadis il y en avait, l'Onatra. Tous les 15 jours, il y avait un bateau courrier qui montait et l'autre qui descendait. Et les gens étaient sûrs que si je rate cette occasion,
au bout de deux semaines,
j'aurai une autre occasion. Mais maintenant, vous pouvez passer 6 mois sans voir une unité arriver quelque part. Donc les gens se débrouillent de leur façon.
Et les cours d'eau sont devenus aujourd'hui, qu'on se les dise, monsieur le directeur technique, et le cimetière à ciel ouvert.
Oui, nous déplorons ça. C'est comme ça qu'un effort est fait dans ce sens-là par le gouvernement, même par les canaux de
les partenaires l'Union européenne, notamment, qui est l'un de vos grands partenaires.
Oui, oui, pour améliorer un peu les conditions de navigabilité.
Il est temps de diversifier les secteurs économiques de la RDC en amenant par exemple des capitaux frais dans le secteur des transports fluviales, soutient le professeur Serge Mpangou, géographe et hydrologue. Nous l'avions interrogé en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. D'après cet enseignant, c'est possible de booster le développement de la RDC grâce aux ressources en eau.
Savez-vous, notre économie est aujourd'hui comme focalisé ou cristallisé sur les ressources minières et surtout, disons, par l'économie d'extraction des ressources naturelles. Et donc, il a fallu compléter cette vision parce que, constatez-vous, la seule exportation des matières premières ne suffit plus pour un peuple qui a grandi, qui a aujourd'hui 82 millions d'âmes à nourrir, à vêtir et à épanouir. Ainsi, Nous, dans cette démarche, les étudiants ont voulu proposer une alternative à cette économie des substances minérales en utilisant l'eau comme ressource. Et comment développer cette ressource? Quand l'homme perçoit convenablement ses problèmes et qu'il peut emporter solution, c'est-à-dire qu'on peut parler développement. Or, maintenant, ce développement, il doit être pris dans le sens le plus propre du terme, c'est-à-dire savoir, savoir-faire et savoir-être. Et maintenant que les étudiants des géosciences, des géologues miniers, des géologues géotechniciens, des géomaticiens, des géographes, des hydrologues, des gestionnaires des ressources en eau comprennent que, et ils se sont liés, ils se sont, disons, alliés à leur club, à leur club ami des étudiants en environnement pour célébrer cette journée mondiale de l'eau sous le thème si on peut utiliser les ressources en eau pour booster le développement autrement en se passant de l'ancien modèle. Quelles sont les pistes des solutions? Et nous avons à contribuer à cela. Et avec moi, nous avions appelé un professionnel, le directeur technique de la RVF, M. Gabriel Mokango, qui était avec nous et qui a planché sur l'importance de la navigabilité comme mode de transport, donc les voies d'eau comme mode de transport, en donnant jusqu'au coûte et jusqu'à la puissance de ce mode de transport. Parce que j'ai retenu que M. Mokango nous a même dit que lorsqu'une barge peut transporter 3000 sacs de maïs, il faut combien de véhicules, combien de trains, combien de wagons de train pour transporter cela, mais à moindre coût en plus et de manière tout à fait simple.
À la découverte des merveilles du Congo. Le beau Congo, c'est le beau visage du Congo mis en avant. Radio Capi vous convie à des balades dans des merveilleux coins et recoins du pays. Tous les samedis à 7h30 et 15h10, le lundi à 14h15.
Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Votre magazine Éco du développement sur Radio Capi se penche aujourd'hui sur comment améliorer les conditions de transport et l'écotourisme sur le fleuve Congo. Donnons encore une fois de plus la parole à ceux qui ont l'habitude de voyager sur le fleuve Congo. Selon ces quelques personnes à qui nous avons tendu le micro dans la ville de Kisangani, il est impossible de ne pas admirer le fleuve Congo et ses rivages au cours d'un voyage. Des villages se succèdent pendant le voyage, la diversité des commerces et même les cultures des différentes tribus qui vivent le long du fleuve Congo sont une richesse à même de développer l'écotourisme sur le fleuve Congo et ses affluents.
Moi je me dis, le fleuve lui-même, c'est déjà tout le fleuve. Je ne sais même pas quel est l'endroit où on ne peut pas admirer la beauté du fleuve et de ses rivages. Mais je peux citer par-ci, par-là, certains sites comme Dissala, quand vous voyez l'ancienne maison du chef de l'État, Mobutu, et même là où il est né, juste à côté là, la maternité où il est né, vous pouvez voir à Mbandaka, vous allez voir le jardin botanique qui est là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprécier tout au long du voyage.
Il y a les sites Wagenya, qui attire le touriste. C'est le symbole de la ville de Kisangani. Oui, et c'est là où est limitée la navigation du fleuve Congo. Et c'est un site touristique qui attire les touristes.
Et quels sont selon vous des sites touristiques que l'on peut valoriser davantage sur le fleuve et ses affluents?
Il y a un principe économique qui dit toute offre crée sa propre demande. Le fleuve crée sa propre demande. Quand vous naviguez sur le fleuve, vous allez voir, c'est beau. La nature, elle est belle. Les îlots, vous allez voir comment est-ce que les riverains s'approchent du bateau, venir vendre et acheter. Vous allez voir les poissons frais, vous allez voir la viande fraîche. Donc, c'est ce que je dis, toute offre crée sa propre demande. Quand vous naviguez sur le fleuve, vous allez voir quelle beauté. En tout cas, il n'y a pas de point précis, parce qu'à partir de Kisangani jusqu'à Kinshasa, partout fait beau, hein. Vous allez voir, vous allez traverser des villes, les villes que peut-être vous avez seulement entendu des noms, hein, et vous allez les vivre en live. Il y a des histoires que nous voyons à la télévision, là vous allez vivre en live.
En RDC, le transport des personnes et de l'air bien par voie navigable est compliqué à résoudre. Dans l'ensemble, la RDC dispose d'un réseau maritime, fluvial et lacustre de 16 238 km de voies navigables. C'est important de réaliser régulièrement les travaux, des balisages et des drainages pour améliorer la qualité des transports sur ce réseau hydrographique. En quoi, M. Gabriel Mokango, nous rappelons qu'il est directeur technique de la RVF. C'est aussi possible de développer l'industrie du tourisme sur le fleuve Congo et ses affluents, d'après ces techniciens.
C'est déplorable que quand vous êtes sous d'autres cieux, autour de voies navigables, vous avez tous les agglomérations qui sont développées, tout
oui.
ça.
Oui.
Donc nous, vraiment, quand vous voyez notre paysage pittoresque...
C'est encore à l'état naturel.
Naturel, tout ça. Donc voyager par voie d'eau, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc on peut développer l'industrie du tourisme et faire rentrer des recettes, des devises, beaucoup à notre pays. Et faire profiter aussi aux nationaux qui n'ont jamais été sur le fleuve. Moi, l'histoire me rappelle qu'il y a des Blancs qui travaillait à Elisabethville, à l'époque Lubumbashi maintenant, qui préférait prendre le train venir à Ilebo, prendre le bateau et descendre à Kinshasa. Et à partir de Kinshasa, ils prenaient soit l'avion, soit
le véhicule.
À Matadi, prendre le bateau et remonter. Donc, parce qu'il y avait un système d'interconnexion et il y avait un système de correspondance, on descendait du train, on avait l'avion, on avait le bateau, tout était bien réglementé.
Aujourd'hui, malheureusement, monsieur le directeur, les réseaux sont désagrégés. Par où devons-nous commencer pour relancer les secteurs?
Bon, nous pensons que nous commençons par le fleuve Congo, qui est l'épine dorsale de notre économie. Et là, je puis vous dire que déjà avec l'appui du PANAV, quelque chose qui est...
PANAV, c'est quoi?
PANAV, c'est le projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres en RDC, financé par l'Union européenne. Et avec PANAV, nous avons balisé le fleuve Congo et nous avons mené des études qu'il faut pour pouvoir déceler tous les endroits dangereux et critiques et si réduire le nombre d'accidents qu'on peut avoir. Il en est de même du fleuve Congo, de la rivière Kasai. Mais aussi, avec l'autre projet qui venait de prendre fin l'année passée, le PETEM, le projet de transport multimodal, et ils ont financé les cours d'eau que nous appelons de deuxième catégorie. Étant donné que PANAV était déjà sur le cours d'eau de première catégorie, notamment le fleuve et la rivière Kasai. Mais également sur le lac Tanganyika. Quand vous allez au port de Kalundu, au port de Kalemi, vous allez voir le balisage lumineux qui a été placé là-bas, installé, à tel point que même un bateau qui se trouve à quelques 20 kilomètres de loin
perçoit au loin,
qu'il y a un port là-bas. Quand il s'approche à quelques 5 kilomètres, il voit des balises qui lumineuses qui lui indiquent l'accès au port. Donc on a tout fait pour faciliter le transport fluvial et lacustre et réduire le nombre de cas et favoriser, parce que nous ne pouvons que exploiter ça à l'état naturel. Beaucoup de pays en cherchent, ils n'ont pas de voie d'eau comme nous en avons.
Oui, et ben il faut qu'il y ait également des investisseurs qui vont venir dans le secteur en termes d'unités, de bateaux, de voyages pour des marchandises, des passagers et autres.
Oui, mais maintenant, comme j'avais dit, dans l'introduction là, les opérateurs économiques et privés ne sont pas tellement très intéressés. Donc c'est l'État qui doit continuer à assurer ça. Hein? L'État doit continuer à assurer le transport public de passagers, parce que les autres ne s'intéressent qu'au transport de fret et de marchandises. L'État doit continuer, parce que nous allons pénaliser. Et vous devez savoir que tout le monde n'a pas accès à l'avion. Le coût du billet de l'avion ne serait pas accessible à notre population. Donc il y a des études qui existent avec deux statistiques qui confirment que la voie d'eau, la voie la moins chère, c'est la voie qui permet d'évacuer un grand volume de marchandises.
Il est aussi important de former les hommes capables d'assurer le transport des personnes et de leurs biens sur le fleuve Congo, ajoute le professeur Serge Mpangou. Nous rappelons qu'il est géographe et hydrologue. Le transport est un secteur à valoriser sur le fleuve Congo et ses affluents.
Il n'est pas de développement sans science. Et aujourd'hui, j'ai été même moi-même édifié d'apprendre par M. Gabriel Mukango, directeur technique de la RVF, qui a pris une phrase qui a dit « Production, c'est mouvoir. Produire, c'est mouvoir. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire en restant sur place. Parce que quand vous produisez et vous restez sur place, votre production ne sert à rien, au fait. Donc, le transport est un volet très important dans la mise en valeur des ressources en eau. C'est ce qu'il a essayé de démontrer. Mais moi, de ma part, j'ai démontré que, avec l'eau, si on prend le volet hydroélectricité, le développement de l'agriculture irriguée, nous prenons l'aquaculture, nous prenons l'exploitation des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, et toute l'industrie, l'écotourisme. Mais on constate que nous passons là à côté d'une grande richesse que nous n'exploitons pas et qui est plutôt durable. Et vous voyez, lorsque on parle aujourd'hui, je ne critique personne, lorsqu'on parle de programme d'urgence, on parle plutôt du spectaculaire, mais pas du durable.
Parce que nos cours d'eau et le fleuve Congo sont encore à l'état naturel, qu'on se le dise.
Exactement. 25 000 kilomètres de rive, c'est-à-dire 25 000 voies navigables, kilomètres navigables, qui ferait quoi? Qui ferait que les Belges, à l'époque, ont utilisé cette force pour charrier tous les produits, le caoutchouc, les VA, disons les VA, les cafés, les cacaos, l'arachide, tous les produits agricoles et aussi miniers. Donc, et les routes n'ont fait que faire de liaisons de très courte importance parce que l'essentiel a été évacué par voie d'eau. Et là, je vous dis, aujourd'hui, cette capacité est beaucoup trop faible.
Donc, nos cours d'eau peuvent également booster les développements, générer des services, de l'emploi.
Exactement. Exactement, monsieur le journaliste. Parce que nos cours d'eau, vous êtes Congolais, vous le savez. Je vous dis aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, que sur la route, prenons la nationale numéro 1. Elle part du fin fond des bananas jusqu'à Lubumbashi, jusqu'à Kazumbalesa, n'est-ce pas? Bien. Mais regardez, cette route-là, elle charrie quel tonnage de marchandises? Rien du tout.
Faible quantité.
Très faible quantité. Je vous dis, je venais de vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'une barge peut transporter? 3000 tonnes, n'est-ce pas? 800, 1000, 2000 tonnes à la fois. Ça, même un train a difficile de faire ça.
Un coût relativement réduit.
Très réduit.
C'est par ici que nous clôturons votre magazine Éco du développement consacré à la promotion du transport et de l'écotourisme sur le fleuve Congo et ses affluents, présenté par Tati Mapoukou en collaboration avec Dorcas Kankou de la radio Kapi Kisangani. Jean-Marc Matoki a coordonné et supervisé ce numéro. Mimi Kindou était la prise de son. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco du développement.